Bienvenue à ceux qui se joignent à la visite. Bienvenue à cette grande aventure. Maintenant commence le voyage. Bien que pour nous, c'est la deuxième étape de ces visites, l'expédition commence maintenant. Cette expédition commerciale qui était organisée à la recherche des espèces précieuses, à la recherche du clou. C'est véritable trésor qui est cultivé dans les îles Moluques. Le voyage commence. Vous êtes prêts? En août 1519, les cinq bateaux San Anton, Concepción, Trinidad, Victoria et Santiago partent du port de Sevilla. Ils descendront le fleuve Guadalquivir et ils feront une petite escale dans les îles Canaries. Comme nous serions bien aux Canaries en train de nous bronzer. Mais non. Nos marins, à cette époque, chargent plus de provisions sur les bateaux pour ce long voyage incertain. Les besoins de nourriture vont être très grands. Ils quittent les Canaries et naviguent vers le sud. À cette époque, les Castilles et le Portugal sont ennemis. Le roi castillan infligeait plusieurs conditions pour les voyageurs. La première, ne peut pas toucher les ports portugais. La seconde, c'est que le capitaine de toute l'expédition, c'est-à-dire Magellan, doit communiquer les cas au reste des capitaines des autres navires. L'expédition est commandée par un marin portugais, ennemi. Il y a de la méfiance dans tout l'équipage. C'est un bon navigateur, mais Magellan ne communique pas rien. Comment est-ce qu'il navigue? La navigation, ça dépend de vent, de courant. C'est très dur. S'il fait trop chaud, les pieds vont même frapper les bateaux. S'il y a de grosses tempêtes, les vagues vont sauter d'un côté du bateau à l'autre pour que l'équipage finisse totalement mouillé. Quelle technique de navigation ils vont utiliser? La boussole, l'astrolabe ou même la navigation astronomique. Ces grands navigateurs ont toujours été guidés par les étoiles. S'ouvrent toutes les difficultés du monde. Il y a des jours de grandes tempêtes. Il y a des jours de grandes chaleurs sans aucun vent avec ces qui les empêche d'avancer et de traverser l'océan Atlantique. À la fin, en décembre 1519, ils arrivent à la baie de Santa Lucia. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui pour nous aujourd'hui, c'est Rio de Janeiro. Là-bas, ils seront environ 15 jours. Ils vont réparer les bateaux, ils vont changer des provisions. Et ils seront les premiers contacts avec un autre type de culture. Pour les marins, ils semblent exotiques. Ils vont presque nus. C'est la première fois que ces marins voient que dans le monde, toutes les personnes ne sont pas comme eux. Ensuite, ils s'en souviendront en cours de route comme des meilleurs moments de voyage, même s'ils ne savent toujours pas où est-ce qu'ils vont. La méfiance avec le capitaine est très grande et a provoqué déjà les premiers conflits entre le capitaine castillan et Magellan. À la fin, au début de janvier 1520, il quittera la baie de Santa Lucia et il commencera à naviguer vers le sud. Pourquoi vers le sud? Parce que Magellan avait déjà rapporté que sur une carte à Lisbonne, au Portugal, il avait vu qu'il existait un passage qui communiquait l'Amérique avec les Moluques. Et il cherche cet endroit pour passer l'Amérique du Sud vers les îles où poussent les girofliers. Il continue vers le sud et soudain, il voit une espèce d'isole qui pourrait être le passage. De 5 navires, le plus petit c'est la Santiago. L'envoie à l'avance pour des explorations. Il s'entre dans ce petit passage. Il passe à travers de tout ça. Mais ils vont découvrir qu'il arrive un moment que l'eau est douce. C'est de l'eau douce. On est sur une rive. Ils sont en ce moment encore dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Rio de la Plata, entre Buenos Aires d'un côté et Montevideo de l'autre. Ils n'ont pas trouvé le passage. Le mécontentement de l'équipage devient plus grand, mais le capitaine Magallanes continue dans ses efforts pour naviguer vers le sud, convaincu de l'existence de le passage. Mais peu à peu, il y arrive ce qui pour nous sera le printemps. Mais là-bas, ça ce qui se vient, c'est l'hiver austral. Et il commencera à naviguer dans des autres froids. Ils arriveront dans des zones où aucun Européen n'avait jamais navigué. En mars 1520, Magellan trouve une baie où ils vont passer l'hiver. Ils voient qu'ils seront un peu plus protégés de ces vents froids et glacés qui commencent déjà à souffrir sous ces latitudes. À ce moment, la mécontente de l'équipage est totale. Il lui donne un ultimatum. Il demande à Magellan de bien vouloir où est-ce qu'on y va. De vouloir qu'il lui donne la défaite. Il ne va pas communiquer la direction à aucun moment au capitaine de race des navires. La mécontente est très grande. À ce moment, les rations alimentaires sont réduites pour pouvoir supporter tout l'hiver, faim, froid et destin incertain. Un moment très dur de l'expédition, dans laquelle une grande mutinerie va avoir lieu. Mutinerie à laquelle la plupart de l'équipage participe. Une grande mutinerie dans laquelle il va renvoyer le capitaine. Au début, il semble que cette mutinerie triomphera. Mais à la fin, Magellan, sachant d'une manière incroyable ce qui se passe, se termine partout. Et la mutinerie, il va finir, il finira aussi par tuer les grands prometteurs. Dans la vie sur les navires, tous les participants à ça, seulement une situation normale, Magellan le saurait tuer. Mais maintenant, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Pour les besoins d'hommes pour gouverner les bateaux. Les participants, bien sûr, sont punis, mais leurs vies sont épargnées. Juan Sebastián Elcano même participe également à ces mutineries. Et il faut tenir compte du fait qu'il sera le capitaine dans la dernière partie de l'expédition. Étant à la baie de San Julián, dans le sud de l'Argentine, ce que nous connaissons aujourd'hui comme Patagonia, où ils hivernent, ils seront en notre de contact avec la population locale. Ils verront des gens très grands et enveloppés dans des pots. En raison de la grande statue et de leurs pieds si grands qu'ils les appellent Patagoniens. Ils connaissent les animaux d'où ces gens vont obtenir les peaux avec lesquels se couvrir. Ouais. Maintenant, 500 ans plus tard, tout ce territoire si vaste du sud de l'Argentine, encore nous appelons Patagonie. Il faut y penser au froid que traversent nos hommes. Parce que, c'est que qu'est-ce que sont les vêtements des marins? Ce sont des grands pantalons avec des chemises et avec une sorte de veste pour se couvrir plus ou moins du froid. Et les chapeaux au bonnet rouge. Ils ont été surpris de la façon dont ces géants patagoniens s'habillaient. Mais nous devons imaginer qu'il est très probable que ces patagoniens aient été plus surpris par leurs pauvres vêtements pour le froid de nos marins. Ils quittent la baie Saint-Julien en juin 1520. Ils continuent à navirer et navirer vers le sud. Maintenant, à ce moment, ils vont avoir la première mésaventure dans le naufrage de la Santiago, dans une exploration. Les petits bateaux qui faisaient les explorations. Mais ça, c'est ce qui se passe. Son équipage sont sauvés, avec lesquels ils devront passer au reste du bateau. Le froid est horrible. Tout le sait. Le territoire, tout à fait recouvert de neige. Les marins, jamais avant passé aussi froid dans sa vie. Ils commencent à voir des différents animaux. Ce sont des terres inhospitalières. Il n'y a pratiquement rien. Et ils continuent vers le sud et le sud. Et déjà, tout à fait, en octobre 1520, ils arrivent à un cap. Ils l'appelleront le cap des 11 000 vierges. Ils voient que dans ce cap, il y a une entrée d'eau avec une série de détroits. Ils vont envoyer des navires de l'exploration. Ce sera la Saint-Anton et la Conception. Passer à travers de ces détroits et les détroits que nous connaissons aujourd'hui comme les détroits de Magellan. Que nous voyons sur la carte, et il semble qu'une petite personne, mais vraiment ce sont des 500 km. Vous devez imaginer avec ces navires qui vont à la merci du vent et du courant dans le temps qui s'occupera de parcourir ces 500 km. Parce que oui, après des mois de navigation dans tous ces canaux dangereux, courants, avec des glaces, arriveront à une zone qui pourront vérifier qu'il y a encore de l'eau salée. Finalement, ils ont trouvé les trois. Ils ont trouvé cette détroit que Magellan leur avait tant parlé. Ils parviennent à traverser les détroits de Magellan en novembre 1520. Un an et trois mois après le départ de Séville. On a perdu quelques hommes dans la mutinerie. Certains hommes sont morts à cause de disputes. La nourriture est rare. Ils voient qu'ils n'ont pas les bonnes conditions pour l'avancer. Et l'équipage du Lanao Saint-Anton, dans une manœuvre de confusion, décide de déserter l'expédition et de retourner vers Séville. Cela aura de grandes conséquences. La nao Saint-Anton, les bateaux, c'est les bateaux plus grands, c'est de la plus grande capacité, et les bateaux entrepôts. C'est les bateaux garde-manger de toutes les dispositions de l'expédition. En ce moment, bien qu'ils pensent que leur jeté est presque fini, il ne connaît pas ce qu'ils trouveront plus tard. Ils devront traverser la plus grande mer, le plus grand océan qui existe dans le monde, le Pacifique. Les dimensions réelles de la Terre n'étaient pas connues. C'est beaucoup plus grand qu'ils ne pensaient. Ils navigueront pendant trois mois sans toucher terre. Nous devons nous rappeler que les navires qui avaient les provisions s'étaient tournés vers Séville. Ils commenceront à avoir des problèmes de nourriture, des femmes, des maladies. Commencent les grands moments de scorbut. Ces maladies que nous connaissons aujourd'hui se produisent à cause de l'absence de nourriture fraîche. Mais à cette époque, ils ne savaient pas pourquoi c'est produit. Et ils l'appelaient la peste de mer. Les chroniqueurs Pigafetta nous racontent les conditions de l'expédition à ce moment au Pacifique. Ça qu'il nous raconte. À cette époque, ce catamaran, c'est-à-dire les pendures, n'est rien d'autre que des miettes sûres, des bois mélangés à des vers, avec une odeur insupportable. La femme est tellement grande que même les rats sont un trésor précieux qui est vendu parmi les marins au prix d'une duche d'or. Nous devons imaginer les conditions à travers lesquelles nos navigateurs passent les 3 mois. Finalement, arrivent aux Philippines. Ils sont appelés l'archipel de San Lázaro. Là, Magellan oublie un peu le véritable objectif de l'expédition, d'atteindre les Moluques. À Philippines, Magellan, il va faire des interférences entre les luttes des différentes îles. Car, à la fin, ce qu'il va faire, qu'il va trouver la mort. En avril 1521. Trouver la mort, Magellan, mais aussi quelques marines de plus. À ce moment, l'expédition est laissé sans capitaine. Et le nombre des membres d'équipage a été considérablement réduit. Alors qu'il décide de brûler les bateaux qui est dans des conditions pires. Ils n'ont que la nao Victoire et la nao Trinidad d'avril 1521 à septembre 1521. Ils marchent d'un île en île. Ils n'obtiennent pas la direction, ne savent pas où aller. Jusqu'en septembre 1521, tous les marins qui restent dans cette expédition, ils décident de nommer comme capitaine de l'expédition à un des marins avec la plus grande expérience. Et sera à partir de ce moment-là que Juan Sebastián Elcano est nommé comme le chef de toutes ces leçons qui restent. Est nommé capitaine en septembre 1621 et déjà en novembre de la même année, il arrive enfin aux Moluques. Il s'atteint l'objectif initial de cette expédition, 203 mois après le départ des ports de Séville. La joie est immense. Tout le monde espère s'enrichir avec ces trésors dont il prévoit de bien charger les bateaux. Mais ils sont toujours à l'autre bout du monde et ils doivent retourner. Nous sommes à la fin de la deuxième étape de la visite. Nous allons entrer par l'estuaire de l'Oria. Nous sommes à Orio. Ville de chantiers navals très importants, ville de pêcheurs, de baleineurs, de ces baleineurs basques, ceux qui vont arriver jusqu'à Terre-Neuve, au nord-est du Canada. Ville où la dernière baleine qui est capturée sur nos côtes a été capturée le 14 mai 1901. C'est là qui est rappelé dans une fête qui a lieu chaque 4 ans et aussi pour la chanson popularisée par Benito. L'activité sportive ici, la plus importante, sera l'aviron. L'aviron dans les traineras, c'est là l'aviron traditionnel basque. Ici, à Orio, nous avons Arraunetxe, c'est-à-dire la maison de l'aviron en langue basque. en euskera. C'est un centre d'environnement traditionnel où nous pouvons voir tous les jours monter et descendre cette rivière entraîner la formation d'Orion. La trainera jaune. Ici, tout est jaune. Ici, l'aviron est presque une religion. C'est le club d'aviron qui a remporté la plupart des trophées dans tous les pays basques. En Araunetxe aussi, vous avez l'occasion de pouvoir se sentir comme un authentique rameur basque dans une trainera, dans une battle. Toutes sortes d'activités et de services nautiques sont ouvertes à tous les visiteurs qui viennent dans notre ville.